Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette nouvelle émission des Récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, avec vous pour redécouvrir la Bible d'une façon inhabituelle et, on espère, intéressante. Et oui, ici on ose regarder les pages les plus insolites de la Bible, et je crois qu'on y trouve des choses fort intéressantes. Bon, pour aujourd'hui, vous connaissez sans doute le grand roi David, mais probablement que vous ne connaissez pas les textes qu'on va aborder aujourd'hui. Puis en plus, aujourd'hui, je vous offre deux histoires pour le prix d'une. D'abord, on va voir jusqu'où il était prêt à aller pour marier la fille du roi. Je ne sais pas si vous avez eu à faire de grands exploits pour conquérir l'élu de votre cœur, mais David, lui, devait faire tout un exploit en ramenant un nombre élevé de prépuces au roi. On vous expliquera ça un petit peu plus tard. Puis, on regardera un deuxième récit où on verra David danser, mais danser d'une façon assez exhibitionniste devant le Seigneur. Bonne écoute! Prenons toujours le temps de lire et de présenter les réactions que vous nous envoyez. Commençons avec un mot reçu de la part de Michel Proulx, qui est bibliste et qui anime une émission à Radio Ville-Marie sur Samuel les lundis à 21h dans la série « Chemin d'intériorité ». Son commentaire porte sur l'émission où nous avons discuté de morale sexuelle avec l'histoire de Tamar du livre de la Genèse, qui comportait quand même des exécutions, un coït interrompu, la prostitution et un inceste. Alors le père Proulx nous écrit: j'ai écouté ton émission hier soir. C'était très intéressant. Tu as appelé un chat un chat. J'ai apprécié la dernière partie où tu as bien fait la différence entre les positions bibliques et la morale sexuelle postérieure de l'Église et de la société à une certaine époque. C'était bien de montrer aussi que la Bible propose des opinions différentes sur un même sujet. Cela contribue à faire voler en éclats les approches fondamentalistes. Salutations et bonne continuation dans tous tes engagements. Et c'est signé le père Michel Proulx, prémontré. On a aussi reçu un commentaire de Madame Poirel, qui nous a contactés pour se dire enchantée du contenu de cette nouvelle émission. Elle dit: vos propos et votre présentation confirment un travail professionnel et un souci d'instruire et d'éduquer dans la simplicité et le respect. Elle nous suggère en référence un livre que je n'ai pas lu, mais qui semble fort intéressant, qui s'intitule « Église et contraception, l'urgence d'un changement ». L'auteur se nomme Catherine Grémion aux éditions Bayard. Je ne l'ai pas lu, mais d'autres personnes me confirment que Madame Poirel a raison de nous le suggérer, puisqu'il est très bien documenté et permet un autre son de cloche sur la question de la contraception qu'on a brièvement abordée dans cette même émission. Merci beaucoup, Père Proulx, et à Madame Poirel pour vos commentaires. Un mot pour vous dire que c'est justement en travaillant avec le Père Proulx que j'ai retrouvé le goût de relire l'Ancien Testament puis de l'explorer. Il m'a montré comment ces histoires sont fascinantes et nous présentent des humains qui sont justement très humains et qui font une expérience de Dieu malgré leurs faiblesses, leurs limites, et qui n'est pas tellement loin de notre expérience à nous. Alors, je vous suggère de faire comme eux et de nous écrire à auditoire@radiovm.com. Des prépuces sur la liste de cadeaux. Tel serait le titre que je donnerais à l'histoire que nous allons écouter. Bon, vous savez, le don nuptial, c'est un cadeau qui était offert par le futur mari au père de la mariée pour obtenir sa main. Voici l'histoire d'un don nuptial particulièrement inusité. À ce moment du livre de Samuel, bon, David a déjà tué Goliath et il commence à se faire connaître pour toutes sortes d'exploits. Puis le roi de l'époque, Saül, se montre de plus en plus jaloux de ce David qui pourrait prendre sa place. Et Saül, le roi, voudrait bien tuer David et s'en débarrasser. Écoutons donc cette histoire qui se retrouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18, les versets 25 à 27.
Saül dit: « Vous parlerez ainsi à David. » Le roi ne veut pour don nuptial que 100 prépuces de Philistins pour tirer vengeance des ennemis du roi. Saül comptait ainsi faire tomber David aux mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent à David ces paroles. La proposition parut bonne à David pour devenir le gendre du roi. Le délai n'était pas écoulé que David se mit en route et partit avec ses hommes. Il abattit parmi les Philistins 200 hommes. David apporta leur prépuce, dont on fit le compte devant le roi, pour que David devienne le gendre du roi. Et Saül lui donna pour femme sa fille Michal. Saül vit et comprit que le Seigneur était avec David et que Michal, fille de Saül, l'aimait. Saül craignit encore plus David, et Saül lui devint définitivement hostile.
David remet donc une dot de 200 prépuces au roi pour obtenir la main de sa fille. Bon, ces prépuces sont vues comme des trophées de guerre, puisqu'ils représentent 200 Philistins qui auraient été tués par David. Bon, ce que je trouve le plus drôle, moi, c'est quand je lis ce texte-là, c'est d'imaginer tout ça. Bon, prenons deux secondes, imaginez la scène. Après la bataille, après avoir tué toutes ces personnes, bien David et ses hommes doivent dénuder les cadavres de leurs ennemis pour procéder à l'ablation de leurs prépuces. C'est quand même une image assez particulière. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les Philistins, c'étaient les ennemis par excellence des Israélites à cette époque, et que contrairement à Israël, bien, ils ne pratiquaient pas la circoncision. La circoncision, bon, c'est un rite qui vient de très loin. Beaucoup de peuples à cet endroit-là le faisait. Et c'est l'acte de couper le prépuce, c'est-à-dire le bout de la peau du pénis. Et ce rite se retrouve dans plusieurs peuples du Proche-Orient ancien. Lors de l'exil à Babylone, on se retrouve au 6e siècle, la circoncision va devenir un rite sacré qui va marquer l'appartenance du peuple élu. Les Hébreux, lorsqu'ils vivaient en Palestine, bien, ils étaient entourés de d'autres peuples qui eux aussi pratiquaient la circoncision. Mais rendus à Babylone, ils étaient les seuls. Au milieu de peuples qui ne pratiquaient pas cette circoncision. Et c'est dans ce contexte-là que le geste est devenu comme un geste pour marquer leur appartenance à la nation juive. Ce sens de cette pratique a été donné, entre autres, dans un récit qu'on lit entre Abraham et Dieu, c'est dans Genèse chapitre 17, verset 10, qui a sans doute été rédigé à cette époque de l'exil. Donc on retient que la circoncision devient le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Le récit à propos de la récolte de prépuces par David fait la preuve que le Seigneur est avec lui, puisqu'il remporte autant de succès. Il réussit à passer à travers toutes ces guerres sans mourir et toujours en gagnant et en réussissant à tasser les Philistins. Il accumule les victoires et jouit de la faveur populaire en devenant le gendre du roi. Il réussit à marier la fille du roi, malgré les hostilités de ce roi-là, Saül, qui voit en lui un adversaire potentiel. Il parvient à grimper dans l'échelle sociale et à entrer dans la cour du roi. Bon. Une question indiscrète pour tous les hommes à l'écoute. Êtes-vous circoncis? Savez-vous pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne pratiquent plus nécessairement cette circoncision qui pourtant est demandée dans l'Ancien Testament? Bien, la circoncision a fait l'objet de plusieurs conflits au début de l'Église, dans les premiers siècles. Dans l'Église naissante, bien, on retrouvait des anciens disciples de Jésus qui, eux, étaient juifs, ils étaient circoncis aussi. Alors, la plupart des premiers chrétiens, ils étaient circoncis. Le problème est arrivé lorsqu'il y avait des païens de culture grecque qui voulaient se joindre au groupe et devenir chrétiens. La question se posait alors, est-ce qu'eux aussi, il faudrait qu'ils se circoncisent pour pouvoir devenir chrétiens, comme les autres l'étaient? Puis, c'est devenu une question qui était très importante sur le rapport entre la loi juive et la foi chrétienne qui était en train de se développer. C'est devenu un débat. On retrouve à Jérusalem, d'un côté, Pierre, qui était représentant des partisans de la circoncision pour tous. Et Paul, de l'autre côté, était porte-parole des tenants du salut en Jésus plutôt que dans les pratiques juives. Finalement, qui pensez-vous qui a gagné? Eh bien, c'est le point de vue de Paul qui a été adopté. Donc, la circoncision était bonne pour ceux qui étaient juifs et qui pouvaient continuer leur pratique tout en étant chrétiens, alors que les Grecs, bon, n'étaient pas obligés de refaire les gestes qui étaient prescrits par la loi juive pour devenir chrétiens. Et encore aujourd'hui, ben, plusieurs chrétiens choisissent de ne pas pratiquer la circoncision, alors que certains groupes le font encore. C'est rendu optionnel, on pourrait dire. Dans le monde juif, la circoncision est encore actuelle, on continue cette tradition-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, on retrouve des textes qui nous disent que ce n'est pas juste une opération physique. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait là, avec un scalpel. Il faut aller un petit peu plus loin que ça. Par exemple, il y a le prophète Jérémie qui nous dit que la circoncision physique n'a aucune valeur en soi s'il n'y a pas une véritable circoncision du cœur. Ça, c'est Jérémie chapitre 4, verset 4. Cette métaphore-là, on la retrouve aussi dans le livre du Lévitique, dans le livre du Deutéronome. Ça signifie la conversion et ça doit se traduire par des actions bien concrètes. Rendre justice à l'orphelin, à la veuve, à l'immigré, s'occuper des autres. Même si l'image de la circoncision du cœur pourrait nous paraître inhabituelle aujourd'hui, là, on parle peu de ça, elle peut se traduire dans un thème qui revient à plusieurs reprises dans la Bible. Aimer Dieu et son prochain, ça va ensemble. Vous êtes en compagnie de Sébastien Daune à l'écoute des récits insolites de la Bible. Aujourd'hui, on parle de David, le grand roi David, mais on le voit sous un autre jour, à travers deux récits un petit peu plus insolites. Bon, je vous propose le deuxième, c'est la danse exhibitionniste de David une fois qu'il est devenu roi. Écoutons un extrait du livre de Samuel où l'Arche de l'Alliance fait son entrée à Jérusalem, dans la joie, dans la danse et dans la nudité du roi. C'est au deuxième livre de Samuel, chapitre 6, les versets 12 à 23. On écoute ça.
On vint dire au roi David, « Le Seigneur a béni la maison de Obed-Édom et tout ce qui lui appartient, à cause de l'arche de Dieu. » David partit alors et fit monter l'arche de Dieu de la maison de Obed-Édom à la cité de David, dans la joie. Or donc, lorsque les porteurs de l'arche du Seigneur eurent fait 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David tournoyait de toutes ses forces devant le Seigneur. David était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche du Seigneur parmi les ovations et au son du cor. Or, quand l'arche du Seigneur entra dans la cité de David, Michal, fille de Saül, se pencha à la fenêtre. Elle vit le roi David qui sautait et tournoyait devant le Seigneur. Et elle le méprisa dans son cœur. On fit entrer l'arche du Seigneur et on l'exposa à l'endroit préparé pour elle, au milieu de la tente que David lui avait dressée. Et David offrit des holocaustes devant le Seigneur et des sacrifices de paix. Quand David eut fini d'offrir l'holocauste et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur, le Tout-Puissant. Puis il fit distribuer à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes et femmes, une galette, un gâteau de dattes et un gâteau de raisin sec par personne. Et tout le peuple s'en alla chacun chez soi. David rentra pour bénir sa maison. Michal, la fille de Saül, sortit au devant de David et lui dit, « Il s'est fait honneur aujourd'hui, le roi d'Israël, en se dénudant devant les servantes de ses esclaves, comme le ferait un homme de rien. » David dit à Michal, « C'est devant le Seigneur qui m'a choisi et préféré à ton père et à toute sa maison pour m'instituer comme chef sur le peuple du Seigneur, sur Israël. C'est devant le Seigneur que je m'ébattrai. Je m'abaisserai encore plus et je m'humilierai à mes propres yeux, mais près des servantes dont tu parles, auprès d'elles je serai honoré. » Et Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort.
Dans sa joie d'accueillir le Seigneur, David danse de toutes ses forces alors qu'il est vêtu d'un éphod de lin. Si vous en avez jamais vu dans un magasin près de chez vous un éphod, c'est un vêtement qui était porté par les prêtres du temple. Les opinions divergent quant à sa forme exacte, mais on a un historien de l'époque, Flavius Joseph, au 1er siècle, qui nous dit que c'était une espèce de tunique courte avec une ouverture au niveau de l'abdomen. On comprend que la façon de danser de David fait en sorte que le vêtement remonte un petit peu trop haut et que tout le monde peut voir ce qu'il y avait sous sa tunique. Comme on l'a vu dans les émissions précédentes traitant des récits insolites de la Genèse, la nudité publique, c'est pas vraiment bien vu dans les temps bibliques. C'était un déshonneur que de montrer certaines parties de notre corps. Un mot sur la femme de David, Michal, qui est celle qui reproche la conduite de David et qu'elle juge indigne pour un roi d'Israël. Michal, c'est à la fois la première femme de David. David avait plusieurs femmes, mais c'était sa principale. Mais c'est aussi la fille du roi Saül. On en a parlé tout à l'heure, c'est pour elle qu'il avait récolté tous ces centaines de prépuces. Alors, Saül, c'était le grand rival de David. À l'époque du récit qu'on vient de lire, c'était David qui était rendu le roi. Saül n'était plus et il était mort. Mais il y avait eu cette grande rivalité entre les deux. Et le narrateur du récit présente Michal par son lien avec Saül. Il dit que c'est la fille de Saül, au lieu de dire que c'est l'épouse de David. C'est pas pour rien. Elle est placée en opposition avec David, et le récit se termine d'ailleurs par la déclaration de la stérilité de Michal, qui apparaît comme c'est un peu le symbole de la fin de la maison de Saül. La dynastie de Saül se termine là, et celle de David va pouvoir prendre son envol. C'est David qui devient le roi du Seigneur. D'après vous, quel est le but de ce texte-là? Bon, on vient de dire que c'était une façon de parler de la fin de la dynastie de Saül, mais aussi ce texte-là est là pour nous présenter David et pour nous le présenter sous trois aspects: prêtre, prophète et roi. D'abord, on le voit, il s'habille avec un éphod, il s'habille en prêtre, il offre des sacrifices, bénit le peuple. Alors ça, c'est ce qu'il fait comme prêtre. Il danse comme le faisaient certains prophètes. On voit dans l'Ancien Testament des groupes de prophètes qui dansent pour entrer en transe et communiquer avec Dieu. On voit moins ça dans la Bible, mais ça existe quand même. Alors, il fait ce geste prophétique. Puis, il va donner de la nourriture au peuple et affirme que son élection provient de Dieu. Ça, c'est clairement royal. Le texte n'est donc pas juste une simple anecdote sur la façon libérale de danser de David. Ça va un peu plus loin. Il veut nous montrer David qui est, en même temps, il rassemble les trois pouvoirs, prêtre, prophète et roi. Puis lorsque ce récit est écrit, bon, on se retrouve plusieurs années après la mort de David, et on écrit ce texte-là pour nous montrer toute l'importance de ce roi-là dans l'histoire du peuple juif. Puis on ne fait pas juste raconter une histoire du passé, on parle de lui parce qu'au moment où on écrit ces textes-là, on voudrait avoir un nouveau Messie qui pourrait prendre la place laissée vacante et que ce nouveau Messie soit, comme l'était David, prêtre, prophète et roi. Alors, on veut mettre le plus d'importance possible sur sa figure. Et d'ailleurs, le texte qui suit cette danse libérale de David, c'est un texte très, très, très important. C'est la fameuse prophétie de Nathan. Si vous ne connaissez pas c'est quoi, c'est que le prophète Nathan va révéler à David que le Seigneur va établir sa dynastie à jamais. Alors, on vient de voir que la dynastie de Saül vient d'arrêter avec Michal qui est stérile. Celle de David, elle, durera pour toujours. Je vous cite juste un verset. « Devant toi, ta maison et ta royauté seront à jamais stables, ton royaume à jamais affermi. » Du livre de Samuel. Notre récit insolite de la danse du roi prépare donc cette prophétie qui va redonner espoir aux Juifs en exil à Babylone. Puis à partir de ce moment-là, ils vont toujours attendre la venue d'un Messie. Et quelques siècles plus tard, c'est les disciples de Jésus qui vont reconnaître en Jésus ce Messie, ce descendant de David tant attendu. Je vous propose de sortir du texte et de parler un petit peu de danse et de spiritualité. Aimez-vous ça, danser? Moi, je vous admets que moi, j'aime bien danser, mais je suis loin d'être le meilleur. Dans plusieurs traditions spirituelles, les danses religieuses vont de pair avec des états modifiés de conscience. On s'en sert beaucoup dans certaines traditions spirituelles. La danse, la musique, ça permet d'entrer en contact avec l'altérité. Le battement des pieds peut appeler de l'énergie, la gestuelle des bras orientée vers le ciel. À quelque part, la danse peut nous aider à entrer en relation les uns avec les autres, mais aussi nous entrer en relation avec Dieu, avec l'altérité, avec un grand A, la transcendance. Dans le judaïsme, la danse n'est pas mal vue, bien au contraire. L'hommage à Dieu peut prendre la forme d'une expression corporelle. On s'accorde pour trouver dans la danse l'origine d'un balancement qu'on voit encore chez les Juifs au moment de la prière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, vous, à la télévision, quand on voit les Juifs devant le mur des Lamentations, ils sont là avec leur Bible en récitant leur texte, ils se balancent, la tête, le corps au complet, et on se dit que ça doit être le résidu d'une danse qui était plus importante à l'époque. Puis encore aujourd'hui, la danse fait partie de la religion juive. Entre autres, on la voit dans les célébrations de mariage, de bar mitzvah, ça c'est le rite de passage pour les garçons qui deviennent adultes. Puis encore plus, moi j'ai été très surpris dans certaines de mes lectures, j'ai découvert que dans la tradition hassidique, la danse est un important outil de prière qui trouve ses racines, entre autres, dans la Kabbale, une tradition ésotérique du judaïsme. Dans la plupart des synagogues, on voit moins la danse. Bon, on peut trouver quelques rondes autour du pupitre de lecture de Torah. Mais chez les Juifs hassidiques, il y a des fêtes où la danse est très importante. Par exemple, Simchas Torah, ça c'est à la fin du cycle de lecture de la Torah dans l'année, bien, il y a une fête qui s'appelle comme ça. Et ça donne lieu à des danses vraiment étonnantes chez les hassidiques. Il paraît que les hommes qui ont des grandes barbes habillés en noir et blanc se rassemblent en grand nombre, boivent de l'alcool, dansent, sautent, crient, et dans leurs cris, ils passent toute la nuit comme ça à danser, crier, boire. Puis de l'extérieur, on regarderait ça, on se dirait, mon Dieu, ça doit être un groupe de punk, de heavy metal, quelque chose. Et non, c'est juste des hommes qui vivent leur foi d'une façon très joyeuse. On met l'accent sur la joie et on vit notre spiritualité dans un corps en danse. Bon, c'est une pratique qui a cours encore aujourd'hui. Pour revenir à notre récit de la danse exhibitionniste de David, on voit dans ce texte-là aussi que la prière peut être corporelle et joyeuse. David entre spontanément en danse pour rendre grâce au Seigneur qui est présent dans l'arche qui entre à Jérusalem. Peut-être qu'on peut s'inspirer de ça, nous aussi, aujourd'hui. Nos messes catholiques, souvent, ils peuvent ressembler à des rencontres organisées par un club d'âge d'or et manquer un petit peu cette joie qui fait pourtant partie de la vie, puis qui fait partie aussi du message chrétien. Hein, la bonne nouvelle, là, c'est qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de célébratif. J'ai découvert, quand j'ai vécu un an aux États-Unis, qu'il y a plusieurs groupes chrétiens qui créent des rassemblements, entre autres, surtout grâce à la musique, qui sont très entraînants. Ça va du gospel au rock chrétien. Et dans ces rassemblements de jeunes chrétiens, souvent évangéliques, ça ressemble presque à des concerts rock. Sauf qu'à certains moments, avec la musique, on a des temps de prière qui est à travers tout ça. Et cette musique-là devient même prière. Et tout le monde entre par cette musique-là dans une ouverture, un état d'ouverture à la transcendance. Bon. Dans la tradition chrétienne, on a ça qui existe, mais on a aussi le contraire complètement. Quand on va dans une célébration, dans un monastère, où là, on peut être des longues minutes dans le calme, dans le silence, et rencontrer le Seigneur de cette façon-là, on voit qu'il y a deux façons qui sont très opposées, très différentes, mais deux façons qui permettent de s'ouvrir à Dieu. Et moi, je pense qu'elles sont complémentaires, qu'il faudrait s'inspirer de ces deux façons de faire-là pour pouvoir prier et rencontrer Dieu aujourd'hui. Une communauté ou une personne qui ne goûte pas à l'expérience du silence va passer à côté de quelque chose. Mais de la même façon, si une communauté ou une personne n'exprime pas sa foi dans la célébration, dans la joie, mais elle aussi, elle va passer à côté de quelque chose de que je juge très important. Peu importe la façon d'exprimer sa prière, ce qui compte, c'est la qualité de la relation qu'on a avec Dieu. C'est la disposition intérieure qui va rester fondamentale. Et je pense que le texte qu'on a lu peut être un témoin de ça. Dans la prière dansée, David était authentiquement plein de joie. Et c'est spontanément qu'il a fait ce geste-là. Et il ne s'arrêtait pas à ce que les autres pouvaient penser de lui. À nous aussi, d'essayer de trouver cette disposition intérieure spontanée et authentique dans notre relation à Dieu. C'est déjà la fin de notre émission de 2 pour 1 à propos de David, 2 histoires pour le prix d'un. J'espère que vous avez apprécié. Pour aller plus loin, je vous suggère un livre où on retrouve justement toutes ces histoires et d'autres qui s'intitule « Mais d'où vient la femme de Caïn » que je viens de publier chez Novalis et Mediapol. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Entre autres, vous pouvez nous rejoindre par le courriel habituel de la station. Je vous le dis comment le faire. C'est auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com. La prochaine fois, nous continuons à mieux connaître David et on va explorer quelque chose d'assez particulier. Là, on a parlé de ce qu'il a dû faire pour marier Mickaël, mais savez-vous que David et Jonathan étaient assez proches et certains voient en David et Jonathan un couple gay dans la Bible? C'est à voir, je vous laisse en suspens, on verra ça la semaine prochaine, mais une chose est certaine, c'est qu'on va parler de Bible et d'homosexualité. Comme à l'habitude, je remercie Andréane Laferrière pour ses lectures et aussi Alain Primeau, notre fidèle technicien toujours là. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt.